La crue, l'inondation, un patrimoine, Floods as Heritage, Université de Limoges, chaire capitale environnementale et gestion durable des cours d'eau, 1er et 2 octobre 2015. Intervention d'Émilie Crémin.
Bonjour et bienvenue. On va bientôt commencer.
Alors, dans ces conditions, est-ce que les inondations peuvent être considérées comme un patrimoine ou au contraire comme une menace? Dans quelle mesure les inondations contribuent-elles à la formation du patrimoine culturel des habitants du Brahmapout? Si le patrimoine peut être défini comme un bien matériel ou immatériel, transmis par la filiation patrilinéaire, on pourra constater que cette notion est bien présente en Assam, où le nom même du fleuve fait référence au père d'un dieu, au fils d'un dieu hindou, donc Brahma. Donc c'est pour ça qu'on appelle le fleuve Brahmaputra, c'est-à-dire le fils de Brahma. J'en parlerai un peu plus dans la première partie. Les habitants du fleuve héritent donc des richesses offertes par le dieu Brahma et partagent cette richesse avec son fils. Le fleuve est donc ce que Brahma a offert aux hommes par sa descendance. Et les terres fertiles et l'eau sont des ressources donc données par les dieux. Voilà. Je distingue bien les termes de crue et d'inondation, puisque les termes de crue sont neutres au niveau de la qualité du phénomène. Elles ne disent pas si c'est un phénomène positif ou négatif, alors que l'inondation a plutôt une connotation négative. Là, je parlerai plutôt des bénéfices des crues et construisant le patrimoine matériel. Le fleuve est particulièrement bénéfique, les crues sont particulièrement bénéfiques puisqu'elles apportent notamment du poisson. Elles recherchent les zones humides de poissons et de ressources halieutiques. On peut voir que c'est une ressource importante pour l'économie locale, avec les habitants de la plaine ont différents outils pour exploiter les différents types de ressources halieutiques, et ils utilisent des filets, des nasses, des tamis et des paniers pour collecter les poissons. Donc c'est une des bases de leur alimentation. La riziculture dépend aussi des crues, puisque les crues déposent les limons, dont j'ai parlé au début, qui sont indispensables pour régénérer les sols après l'exploitation de la riziculture. C'était la zone de Madjuli, qui est demandée en conservation au patrimoine mondial de l'humanité en tant que zone naturelle, mais aussi culturelle, parce qu'il y a une culture particulière qui s'est développée dans cette région. Donc là, on voit la diversité l'importance de la biodiversité au niveau des zones humides. Et je me suis concentrée plus sur cette zone-là, qui est endiguée. Là, on peut voir la topographie de la zone endiguée. Dans cette zone, les riziculteurs ont développé différentes pratiques rizicoles. Ils ont différentes variétés de riz qui s'adaptent aux différents types de profondeur d'eau. Ils arrivent tout à fait à s'adapter à la variation du niveau de l'eau. Il y a des allers-retours entre la basse plaine et les terrasses alluviales. Pendant les inondations, les habitants peuvent aussi déplacer leur maison. Là, par exemple, on voit une famille qui déplace les plantes de sa maison, qui était autour de sa maison. Mais dans cette situation, on voit qu'il y a le problème d'érosion qui affecte le village et qu'ils sont obligés de déménager parce qu'ils ont à peu près perdu leur terre. Ils reconstruisent leur maison un peu plus loin. En espérant que l'érosion ne va pas emporter ces terres un peu plus tard. Donc on pourra voir aussi quels sont les risques d'inondation et si finalement les crues sont constituées un patrimoine, on pourra voir que les inondations, permet de construire un patrimoine immatériel qui est la transmission de l'expérience de génération en génération.